J'adore les esprits faux, c'est pourquoi je me délecte de chaque nouveau livre de Jérémy Rifkin qui publie ces jours-ci en France, La société du coût marginal zéro. Rifkin, si son nom ne vous dit rien, c'est le conférencier international le mieux rétribué de la planète qui nous a annoncé dans ses précédents livres la fin du travail, puis la fin du nucléaire. Et ce prophète nous annonce aujourd'hui la fin du capitalisme avant probablement de s'attaquer à la fin de la maladie, puis à la fin de la guerre. Et vous savez pourquoi le capitalisme est en train de mourir, selon Rifkin, grâce à Internet. Alors bien sûr, quelques-unes des principales capitalisations boursières sont des valeurs Internet, depuis Google jusqu'à Apple, cela n'a échappé à personne. Mais, nous dit Rifkin, les sites collaboratifs d'autopartage, par exemple, sont en train de saper le capitalisme. Pouvoir louer sa perceuse à son voisin, louer sa chambre, même lorsqu'on n'est pas un hôtelier, voilà qui va saper le capitalisme plus efficacement que la lecture obligatoire de Marx et Engels dans toutes les business schools du monde. Alors comment lui dire à Jérémy Rifkin, comment lui dire que tous ces sites collaboratifs sont possédés et gérés par des capitalistes, pas moins capitalistes que ceux d'Amazon ou de Carrefour? Mais surtout, l'idée selon laquelle on peut partager sa perceuse ou son auto n'est pas du tout une idée anticapitaliste. C'est même une idée qu'approuveraient Serge Dassault et Donald Trump. Ça s'appelle accroître la rentabilité du capital. Exemple, avant, j'avais 3 places de voiture qui ne servaient à rien lorsque je faisais un Grenoble-Lyon. Maintenant, je fais payer 3 passagers pour les transporter sur ce trajet. Une manière non pas d'en finir avec le capitalisme, mais de l'approfondir. Voilà pourquoi les gens de gauche ont tort de se précipiter sur le livre de Rifkin en croyant y trouver la certitude que le capitalisme ne passera pas l'année. Les capitalistes sont tellement cupides qu'ils vendront la corde pour se pendre, peut-être, mais ce sont les anticapitalistes qui l'achèteront.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et pour évoquer la prostate, je suis en compagnie de notre psy du mercredi, Serge Effèze. Salut Serge.
Bonjour.
De notre reporter Thomas Chauvineau. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Vous avez testé un stimulateur prostatique et vous nous direz tout à l'heure comment ça fonctionne. Le docteur Géraldine Pignot, bonjour.
Bonjour.
Docteur, vous êtes urologue à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre près de Paris. Et puis enfin, le romancier Tahar Ben Jelloun, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié aux éditions Gallimard un récit intitulé L'ablation, dont je vais lire un extrait. Un barou d'honneur, écrivez-vous, Tahar Ben Jelloun, un feu d'artifice. Je voulais pour mon ultime éjaculation avant l'opération un orgasme grandiose. L'adieu à des années de plaisir. C'est ce que vous racontez notamment dans L'ablation. C'est un récit, c'est un témoignage que vous avez voulu faire, Tahar Ben Jelloun.
Oui, un témoignage. Et en même temps, je me suis servi de mon expérience personnelle dans les hôpitaux. Et puis, je me suis intéressé aux autres. C'est-à-dire que moi, je suis passé par là, mais de manière beaucoup moins dramatique que mon personnage. Et grâce au professeur Desgrandchamps, qui est d'abord un ami, en même temps un grand professeur d'urologie, il m'a dit qu'il faut absolument écrire quelque chose sur ce tabou qui est le cancer de la prostate, parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est très fréquent. Ça touche 7 hommes sur 10 à partir de la soixantaine, parfois même avant, et qu'il faut en parler. Alors moi, j'ai fait mon travail d'écrivain, c'est-à-dire de témoin. Je suis allé faire plusieurs séjours à l'hôpital Saint-Louis. J'ai rencontré justement une personne qui avait à l'époque 58 ans, qui était dans ce cas-là, à qui on a enlevé la prostate. Et puis j'ai suivi surtout les conséquences désastreuses qu'a vécu mon personnage. Et je les raconte directement, d'une manière un peu brutale, mais réelle. Et en même temps, il fallait le faire.
C'est un beau livre, effectivement, un livre cru, un livre sans phare. Vous débutez par la principale chose, la première des choses à laquelle on songe lorsqu'il est question d'ablation de la prostate, l'impuissance.
Oui, vous dites... c'est une des conséquences, mais qui n'est pas définitive, ça peut revenir. Mais la peur est là, l'angoisse est là chez les hommes.
Et votre personnage doit apprendre à vivre avec cela. C'est un homme à femme, un séducteur, et il lui faut apprendre à vivre sans bander.
Oui, ben c'est un apprentissage, le fait d'accepter, le fait de se dire que peut-être ça va revenir, et puis d'accepter la réalité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y en a qui refusent l'ablation de la prostate. Et par conséquent, ils subissent après les conséquences de ce refus. Une des conséquences, c'est un cancer dans les os, un cancer plus grave qu'on ne peut pas soigner et qui entraîne la mort. Alors, je donne l'exemple le plus connu dans l'histoire récente, c'est celui de François Mitterrand, et qui, en octobre 81, découvre un cancer de la prostate. Et alors, il aurait posé la question, mais je n'étais pas avec lui, qu'est-ce que je risque si je l'enlève? Il dit, ben, vous ne pouvez plus faire l'amour. Ah, dans ce cas-là, je garde ma prostate et j'en subis les conséquences. Et il a vécu plus de 15 ans après.
On écoute immédiatement le François Mitterrand dans ses œuvres avec sa prostate.
Monsieur le Président, vous avez souhaité toujours beaucoup de transparence sur votre état de santé, donc je comprendrais qu'on vous demande si vous pensez aujourd'hui continuer votre activité ou si vous avez songé à les abandonner, à démissionner.
En fonction de la mort. Non, je n'ai pas encore songé, non. Non, il n'y a pas de raison. Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car ce n'est pas de ce côté-là que ça se passe.
Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu le temps de travailler? Est-ce que vous avez eu le temps de lire? Est-ce que vous avez eu le temps de...
J'ai lu quelques journaux. J'ai lu un livre. Mais il lui reste du temps, je regardais le ciel plutôt. Je tiens simplement à vous dire que dans la hiérarchie des choses agréables, ça ne vient pas en premier rang.
Les journaux?
Non, pas les journaux.
François Mitterrand, suite à son opération, à sa sortie de l'hôpital Cochin en 1992, docteur Géraldine Pignoux, il n'a pas eu d'ablation de la prostate, François Mitterrand.
Non, tout à fait. En fait, le diagnostic a été posé à un stade plus avancé de la maladie, hein, chez François Mitterrand, et donc la question de l'ablation de la prostate ne s'est pas posée.
Elle ne se posait plus ?
Voilà, ne se posait plus. Il a eu des traitements qui sont des traitements qu'on dit palliatifs, mais qui sont en fait des traitements qui permettent simplement de retarder l'évolution de la maladie, mais pas de guérir, puisqu'effectivement, le stade de sa maladie était d'emblée métastatique.
La première inquiétude, c'est la question de l'impuissance lorsqu'il est question du cancer de la prostate. Qu'en est-il, vous qui êtes urologue ?
Alors effectivement, c'est une intervention chirurgicale quand il s'agit de cancer et de prostatectomie qui génère des effets secondaires très importants et la dysfonction érectile est l'effet secondaire le plus important. On ne donne pas de pourcentage parce que malheureusement c'est très important et quand ça concerne un patient donné, c'est 100% pour ce patient-là. Mais effectivement, pratiquement tous les patients vont avoir une dysfonction érectile post-opératoire immédiate avec une récupération qui est ensuite très variable d'un patient à l'autre et qui peut prendre 6 mois, 1 an ou ne jamais revenir, effectivement.
On écoute James Brown à Got You, I Feel Good. Ils n'ont pas osé mettre Like a Sex Machine. C'est Thierry Dupin qui a choisi le disque avec Stéphanie Texier à la réalisation. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, sugar and spice. Look. Service public sur France Inter. La prostate, un gland tabou, un sujet préparé par Chantal Lemontagnier et Elodie Piel avec Ariane Amadi. Et nous sommes en compagnie du romancier Tahar Ben Jelloun, de notre psy du mercredi Serge Fez et du docteur Géraldine Pignot, urologue à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Tahar Ben Jelloun, dans l'ablation, un récit, vous racontez la maladie de votre personnage, un personnage qui vous ressemble en partie. C'est un choc, évidemment, lorsque l'on apprend qu'il va falloir subir une ablation de la prostate. C'est un choc qui concerne directement la conception même que l'on se fait de sa masculinité.
Absolument, parce que enfin, moi, je me suis mis vraiment dans la peau de ce personnage et je me suis dit, comment je réagirais si on m'annonçait ça, surtout sachant les conséquences que cela... Évidemment, c'est un choc, mais en même temps, que faire? Il y avait ça, ou alors laisser faire la nature et évidemment se laisser emporter par un cancer quelques années après. C'est-à-dire que le cancer, on ne peut pas l'arrêter, mais le rendre moins méchant et puis arrêter son évolution. Mais quand on enlève la glande avec ce qu'il y a dedans de méchanceté, on a quand même des chances de survie.
Votre personnage est un personnage actif, maître de son existence, et soudainement, il va devenir un corps, il va devenir objet d'attention, il va devenir un malade, et c'est cela aussi qui est difficile à endurer.
Endurer, parce que moi, je raconte ce que moi j'ai connu, par exemple l'IRM, les biopsies, tout ça, et je raconte ça d'un point de vue bien sûr littéraire, mais en même temps, j'ai connu ça. Et rentrer dans un tube pendant 40 minutes, on vous met une musique horrible dans la tête pour ne pas écouter le bruit de la machine, etc. Et après vous faire signer un papier, est-ce que vous êtes claustrophobe? Vous dites non, mais vous le devenez, forcément. Enfin, ce sont des épreuves comme ça. Mais je me souviens, quand j'étais dans ce tube, je me dis, bon, ben, c'est un moment à passer. Il vaut mieux ça que de vous annoncer qu'il n'y a rien à faire et vous rentrez chez vous avec un énorme cancer.
Serge Fez, l'avis du psy.
C'est un changement de statut, l'histoire de la prostate. D'abord, les hommes, en général, découvrent qu'ils ont une prostate parce qu'ils n'en savent rien au moment où elle leur pose des problèmes, quand elle commence à grossir, soit parce qu'il y a un adénome, soit parce qu'il y a un cancer. Et là, tout à coup, ça les amène, effectivement, aussi, s'il y a cette ablation et si leur activité sexuelle ou érectile est modifiée, aussi à changer de statut, à changer d'identité. Au fond, l'identité masculine, on le sait, elle se construit beaucoup sur l'activité pénétrante, hein, le fait que le monde, il est séparé en deux, ceux qui sont pénétrés, ceux qui pénètrent, le monde des hommes, le monde des femmes et d'un autre côté, évidemment, celui des homosexuels. Donc c'est une façon de revisiter entièrement son identité masculine. Et c'est vrai que votre héros, Tahar Ben Jelloun, il est dans cette revisitation, il est poignant.
Il n'est pas préparé.
Il n'est pas préparé et il revisite aussi sa sexualité. Il se dit, au fond, est-ce qu'on peut avoir une autre sexualité que cette sexualité autour, organisée autour de la pénétration? Il est dans une quête presque tantrique de son corps. Il se dit peut-être qu'on peut découvrir aussi d'autres formes d'orgasme, d'autres formes de plaisir, d'autres formes de partage. Et c'est vraiment très à l'image de tous les patients que j'ai pu suivre et qui avaient subi ces ablations et ces moments d'impuissance parfois transitoires. C'est comment je vais me reconstruire? Comment je vais reconstruire une autre identité d'homme et une autre identité dans ma sexualité?
C'est très silencieux parce qu'on n'en parle pas, il y a la peur, il y a la honte. On n'a pas l'habitude d'exposer ce genre de problème à ses proches. Et alors, ce qui est quand même très curieux, c'est que mon livre a été beaucoup lu par les femmes. J'ai reçu énormément de courriers de femmes qui me disent « Merci d'avoir fait ce livre parce que j'ai appris beaucoup de choses sur mon mari ou sur mon père ou sur mon frère ou sur mon compagnon. » Parce que on n'en parle pas et puis les femmes, les pauvres, se retrouvent dans une situation face à un homme qui est diminué mais qui ne parle pas, qui ne dit pas parce qu'il a honte.
Docteur Pignot, vous qui êtes une femme, vous avez des patients hommes à qui vous apprenez parfois qu'il va falloir leur faire subir une ablation de la prostate. Comment réagissent-ils? Comment faire pour que ces hommes ne sombrent pas dans la tristesse, la dépression que peint d'ailleurs Tahar Ben Jelloun dans son livre?
Alors effectivement, déjà l'annonce du cancer en soi est une épreuve et on leur annonce derrière qu'on va leur proposer un traitement qui n'est pas forcément un traitement chirurgical, hein, il y a d'autres options, mais qui dans tous les cas va avoir des effets secondaires, notamment sur la sexualité. D'emblée, on explique aux patients qu'il existe des solutions derrière pour essayer de recouvrir une sexualité quasi normal, mais il faut d'emblée lui expliquer effectivement en quoi ça consiste. Et on a des programmes d'éducation thérapeutique qui se mettent en place maintenant dans les hôpitaux, qui consistent à accompagner le patient au cours de son parcours de soins, non seulement pour l'acte qui va être fait, mais pour tout ce qui va suivre derrière et tous les traitements qui pourront être instaurés dans la prise en charge globale du patient.
Nous avons une auditrice au standard, Marine. Bonjour Marine, vous nous appelez de Paris.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Marine.
Alors, je vous appelle au sujet de mon père, en fait. Il y a eu un cancer de la prostate il y a à peu près 2 ans, qui dans un premier temps, on lui a gratté. Dans un deuxième temps, on lui a opéré, soit à peu près 1 année après. Là, il s'avère que, outre des problèmes d'incontinence, c'est-à-dire qu'il ne récupère absolument pas, il a son taux de PSA qui a doublé en 6 mois. Donc, il est retourné consulter. On lui a dit qu'il était possible qu'un autre cancer se développe quelque part ailleurs ou qu'il était également possible qu'on ait oublié, enfin, qu'il y ait un morceau de prostate qui n'ait pas été enlevé. Ouais. Alors, moi, ça m'a paru totalement... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, donc j'aimerais savoir tout simplement si c'est possible qu'on oublie d'enlever un morceau de prostate quand on fait ce type d'opération.
Tahar Benjelloun est incrédule, et vous, docteur Pignot?
Alors, on n'oublie pas de morceaux de prostate comme ça, mais c'est vrai que ce qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle une marge chirurgicale positive. C'est-à-dire, sans que le chirurgien s'en rende compte, on passe très près du cancer et on peut laisser quelques petites cellules en place. Ça, c'est ce qu'on appelle une marge positive, et ces cellules cancéreuses peuvent, secondairement, quelques mois ou quelques années après, reproliférer pour donner ce qu'on appelle une récidive locale. Alors, donc, c'est rare, mais ça arrive qu'il reste quelques petites cellules locales qui puisse se redévelopper.
C'est pour ça qu'on fait les rayons, c'est pour ça qu'on fait un traitement radio.
On peut faire des rayons en rattrapage.
L'incontinence, c'est aussi un autre thème, une autre conséquence parfois de l'ablation de la prostate que vous racontez, Tahar Benjelloun. Et là aussi, avec
beaucoup de détails assez crus, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant de ne plus contrôler sa vessie, c'est terrible, et de devoir porter des couches. Ça, il s'appelait Michel. C'était sa hantise, c'était la chose qu'il faisait. À l'époque, il parlait surtout de ça parce qu'il devait porter des couches et c'était humiliant pour lui d'aller à la pharmacie acheter des couches pour son âge.
Et là aussi, vous racontez l'histoire d'un homme qui est en plein dans sa vie sociale, qui est prof, qui doit aller enseigner à l'étranger et qui est dans cet état évidemment humiliant, évidemment compliqué. Docteur Pignot, est-ce que c'est évitable? Est-ce qu'aujourd'hui on a des techniques qui permettent donc de contrer cet effet secondaire de l'opération?
Alors effectivement, l'incontinence, heureusement, elle concerne un nombre beaucoup moins important de patients. C'est 5 à 10% des patients en post-opératoire. On essaye au maximum de préserver ce qu'on appelle le col vésical et le sphincter pour permettre aux patients de récupérer une bonne continence post-opératoire. Mais là encore, ça dépend de la qualité du sphincter en pré-opératoire et notamment de l'âge du patient.
Oui.
Donc les facteurs sont multiples, influençant cette récupération de la continence. Et effectivement, quand il y a une incontinence très sévère post-opératoire, c'est un impact majeur sur la qualité de vie des patients. Ensuite, il existe des solutions.
Ça dure pas longtemps, ça dure 2-3 mois.
Voilà, généralement, ils récupèrent avec de la kinésithérapie respiratoire, de la kinésithérapie périnéale. Et derrière, il y a d'autres options potentielles si la kinésithérapie ne suffit pas.
Le retour du périnée, une question de Fabrice qui nous dit « La fréquence des cancers de la prostate semble s'accroître. Est-ce vrai ou en parle-t-on davantage? Est-ce que notre environnement peut être en cause, docteur Pignot ?»
Excusez-moi, j'ai pas entendu votre
question. Est-ce que l'environnement
peut-être en cause sur les cancers de prostate? Alors, ça a été beaucoup incriminé. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de plein de choses. Il n'y a rien de vraiment prouvé. Donc effectivement, à part les facteurs de risque qu'on connaît, que sont l'ethnie, puisqu'on sait que les Afro-Américains sont un petit peu plus concernés que les Européens, et les antécédents familiaux, il n'y a pas d'autres facteurs de risque reconnus.
Bah, de toute façon, on vit dans une époque où la qualité de vie est de moins en moins rassurante, et c'est vrai qu'il y a plein de cancers que nous avalons tous les jours, comme si le cancer arrivait par des petites bulles comme ça, ce que nous mangeons, ce que nous respirons, bien sûr qu'on est entouré de dangers pour notre santé, même dans des pays européens, soi-disant, où il y a de l'écologie, etc. Donc forcément, ça doit, d'une façon ou d'une autre, agir sur les cancers possibles.
Parmi les causes du cancer de la prostate, cause invoquée par les auditeurs, Gilles nous demande s'il y a un lien entre le nombre de rapports sexuels et ces pathologies-là, docteur Pignot.
Alors non, il n'y a pas de relation directe entre le nombre de rapports sexuels et le développement d'un cancer de la prostate. Par contre, effectivement, un patient qui a des rapports sexuels très réguliers va avoir une sexualité optimisée en préopératoire et de meilleurs résultats sur la sexualité en post-opératoire quand on opère. Mais directement, ça n'influence pas l'incidence du cancer de la prostate.
Donc, il faut s'entraîner, Thomas Chauvineau. Nous avons Patrick au téléphone. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Moi, je me pose donc une question sur le dépistage. Donc, j'ai 58 ans, donc j'ai fait la prise de sang. Donc, j'ai un médecin traitant. Donc, je lui ai demandé de me faire un toucher rectal. Et les médecins traitants, ils font plus de toucher. Donc, après, il m'a dirigé chez un radiologue où on m'a introduit une caméra. Je trouve que c'est un surcoût donc pour la sécurité sociale. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Merci Patrick pour cette question. Évidemment, dans les dépistages du cancer de la prostate, le toucher rectal est-il encore de mise ?
Alors oui, tout à fait. C'est une excellente question. Le toucher rectal fait partie entière du dépistage, au même titre que le dosage de PSA, puisque malheureusement, il existe des cancers qu'on ne dépiste qu'à la palpation, mais qui ne vont pas faire élever le taux de PSA.
Alors, on reparlera du taux de PSA, parce que c'est une polémique, Tahar Benchelloun.
Oui, non, de toute façon, le PSA n'est pas fiable du tout.
Il faut juste expliquer ce qu'est le PSA.
Ce qui mesure, juste la parole
Docteur Pignot, juste Pignot, sur la définition de ce fameux taux de PSA qui est mesuré dans le sang.
Alors, le PSA, c'est l'antigène prostatique qui n'est sécrété que par l'organe prostate. Donc c'est effectivement un bon reflet de la prostate en soi, mais ça peut être au-dessus des normes en cas de cancer, mais également en cas d'hypertrophie bénigne de prostate ou en cas d'infection urinaire. Donc c'est un marqueur qui est sensible, mais qui n'est pas du tout spécifique
du cancer. C'est pas suffisant
du tout.
Il faut absolument le toucher rectal, c'est la chose la plus fiable.
Et on dit que le taux de PSA, le dosage du taux de PSA dans le sang est responsable d'un certain nombre de surdiagnostics. Cela a causé une polémique puisqu'on a considéré qu'on faisait des opérations pour rien avec tous les risques et tous les traumatismes que cela pouvait engendrer. Quelle est votre opinion à ce sujet, docteur Pignot ?
Alors, il faut différencier effectivement ce qui est du surdiagnostic et ce qui est du surtraitement. Diagnostiquer un cancer de prostate ne veut pas forcément dire qu'on va le traiter. On sait maintenant qu'il y a des cancers qu'on considère comme indolents, c'est-à-dire peu évolutifs, peu agressifs et qu'on peut se permettre de surveiller. Le diagnostic, ce n'est pas un diagnostic de masse qui est conseillé par l'Association française d'urologie et par les autres instances sanitaires. C'est un diagnostic précoce, individualisé, donc un dépistage individuel qu'on propose aux patients après avoir discuté avec lui des avantages, des inconvénients et des conséquences de ce diagnostic.
À partir de quel âge faut-il se faire diagnostiquer, demande-t-on en régie ?
Alors, on dit classiquement à partir de 50 ans.
Et aux États-Unis, c'est à partir de 40 ans. Les Américains sont plus...
un peu plus stricts.
plus insécurisés.
Et effectivement, on sait désormais que le premier PSA va peut-être conditionner la suite de la surveillance. Si le premier PSA est inférieur à 1 nanogramme par millilitre, on peut se permettre d'espacer une surveillance et non pas de faire un dosage annuel.
Nous avons au standard Christophe qui nous appelle de Bretagne au 01 45 24 7000. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Nous vous écoutons Christophe.
Écoutez, moi, les bras m'en tombent. C'est incroyable d'entendre cette émission. On a avec vous un urologue qui est pour le dépistage, un écrivain qui est une victime du dépistage. Or, on sait très bien aujourd'hui, même la Haute Autorité de Santé le dit, ce n'est pas une bonne idée ce dépistage. Le professeur Bernard, dans le dernier plan cancer, proposait d'arrêter de rembourser le dépistage. Et quand on entend ça, mais tous les hommes vont y aller, ils vont devenir impuissants, incontinents, mais pour rien, c'est une catastrophe.
Alors, que l'on comprenne bien, Christophe, si vous n'êtes pas favorable au dépistage, qu'est-ce que vous préconisez en matière de cancer de la prostate ?
Eh bien, moi, je préconise d'arrêter le dépistage, complètement. Ça ne marche pas. Pour les meilleures études, on va peut-être permettre à un homme de vivre quelques années dans des mauvaises conditions de plus, et on va en rendre 50 impuissants.
Je m'excuse, mais j'ai du mal à vous suivre. Et si on ne dépiste pas, les gens vont mourir du cancer de la prostate.
Mais non, ça ne marche pas. Les études européennes montrent qu'on a beau avoir opéré 20 000 hommes par an depuis les 15 dernières années, la mortalité chez l'homme ne baisse pas. C'est une catastrophe, ça ne marche pas. C'est pour ça que le professeur Bernard, dans le futur plan cancer, a dit « il faut arrêter de dépister ». Et là, vous avez une urologue. Mais les urologues, c'est le pain béni pour eux.
Ils ne sont quand même pas payés à l'acte.
Mais ce n'est pas ça. C'est que les cliniques se suréquipent, les hôpitaux se suréquipent. Mais financièrement, ça coûte 3 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. Il faut arrêter ce truc.
Alors, on va laisser répondre.
Et garder l'argent pour autre chose.
On va laisser l'urologue répondre, le docteur Pignot. Et puis ensuite, vous aurez à nouveau la parole, Christophe.
Alors, effectivement, il ne faut pas confondre surdiagnostic et surtraitement, là encore. Dépister un cancer de prostate, ça ne veut pas dire qu'on va va le traiter derrière et générer des effets secondaires pour le patient. Hein, on sait qu'il y a des cancers indolents. Ce qui est important, c'est de dépister et de diagnostiquer les cancers qui, eux, vont évoluer rapidement et conduire à une maladie métastatique et au décès du patient. C'est cela qu'on veut éviter. On se fiche des petits cancers indolents qui ne vont pas impacter sur la survie du patient. Et c'est vrai que dans les études européennes, les petits cancers peu agressifs n'impactent pas sur la survie des patients. Ce qui impacte sur la survie des patients, c'est certains cancers agressifs qui, malheureusement, eux, vont évoluer vers le décès. Et on ne sait pas encore actuellement faire la part des choses entre les deux.
Oui,
quand j'ai sorti mon livre il y a quelques mois, j'ai eu cette polémique avec un médecin de Bretagne, je crois, et qui était contre le dépistage. Alors, je ne comprenais pas du tout cette logique. Au contraire, dépister, c'est prévoir, c'est la prévoyance. Plutôt prévoir les choses plutôt que de les guérir. Si, par exemple, on fait une fois par an un toucher rectal, ça ne coûte pas tellement cher à la sécurité sociale, ou à la limite, bon, le taux du PSA. Mais on prévoit les choses, on essaie de les prévenir pour ne pas devoir justement intervenir dans des opérations chirurgicales qui coûtent effectivement très cher, etc. Au contraire, le dépistage, c'est pour éviter qu'on arrive à des choses plus graves.
Christophe, votre réaction ?
Mais monsieur Tahar Benjelloun, oui, c'est moi le médecin de Bretagne. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Prostate, le grand sacrifice ». Parce que, pourquoi j'ai appelé ça ce titre-là ? C'est parce que vous n'avez pas du tout compris le problème. Si on dépiste, il y a 2 millions de tests par an. Si ensuite, quand on est dépisté, si c'est positif, on va faire une biopsie. S'il y a une biopsie, on va faire une opération. Moi, je vais vous dire, l'information du patient qui va choisir, j'y crois pas du tout. Si son médecin veut l'envoyer se faire dépister, se faire opérer, il va le faire. Et quand on regarde les chiffres, les chiffres sont implacables. On ne sauve pas les hommes en le dépistant, en les opérant. La mortalité ne baisse pas. Mais je ne sais plus, moi les bras m'en tombent, parce que c'est vrai que ça paraît tellement évident.
Il faut garder vos bras, même si, selon vous, il faut garder sa prostate.
Ça paraît évident, tout le monde se dit, on va dépister, comme ça on va soigner et on va guérir. Et ça ne marche pas.
Il y a un mouvement qui s'appelle « Touche pas à ma prostate », etc. Moi, je suis très heureux que le professeur Desgrandchamps ait touché la mienne, ça m'a sauvé.
On va écouter un disque pour se faire du bien. Serge Gainsbourg et Ecce Homo, toujours choisi dans la même perspective.
C'est moi, Gainsbourg. On me trouve au hasard. Des nightclubs, des bars américains, c'est bonheur.
Parents d'art. Ecce Homo. Ecce Homo.
service public. Sur France Inter, il est question de la prostate. Et la prostate, ce ne sont pas seulement des souffrances, c'est aussi du plaisir. Et c'est le test du jour dans service public.
Un, deux, un, deux.
J'ai testé pour vous la pilule Nobab. Je ne peux rien dire encore, mais il n'est pas impossible qu'il faille la prendre deux fois par jour.
Un, deux, un, deux.
Nous allons maintenant faire le test de capacité à l'autorégulation thermique. Mettez vos casques.
Thomas Chauvineau testera tout. Il en a fait le serment au sommet de la tour de la maison de la radio et il vous le prouve. Il vous le prouve tout de suite, n'est-ce pas, Thomas?
Oui, j'ai testé ce que vous avez appelé des stimulateurs prostatiques. Pourquoi? Alors, ils ont des jolis noms. Ils s'appellent par exemple Checky Bunny ou il y a Wavy Bunny ou il y a même Plug Strass Double Secrets Paris.
Ça ressemble plutôt à des borborimes, hein, tout ça.
Non, Plug Strass Double Secrets Paris, moi je trouve que c'est assez clair, en tout cas c'est prometteur. Alors vous savez, avant c'était des stimulateurs qui étaient manuels, maintenant ils sont électriques et développement durable oblige, ça se recharge même, il ne faut plus changer les piles et les connaisseurs reconnaîtront peut-être le bruit de celui-là. Voilà, celui-là.
On dirait une brosse à dents électrique.
Celui-là, il tourne, il vibre, c'est paraît-il le must du must, il s'appelle Nexus Revo 2 et il a même une prise USB.
Celui-là, c'est la Rolls.
Ah, il y a une Rolls pour...
Ah, il y a une Rolls, oui, quand même. Okay. Il y a une Rolls. Hein. Bon, il va masser, vibrer, donc il va tout faire en même temps. C'est ce qu'on appelle un kit main libre, parce qu'on peut le poser, et après, on a les mains libres. Donc, il y a un moteur qui vous fait tourner en rotation. Donc, ça va nous faire un massage progressif au niveau de la prostate. Et bien entendu, la vibration, comme vous avez vu ici, nous donne des petits à-coups de vibration au niveau du périnée. Donc, c'est très important là-dessus aussi, puisque... Les hommes, on a des zones érogènes, il ne faut pas les oublier.
Il ne faut pas oublier le périnée de l'homme non plus. Alors, on est dans une boutique qui s'appelle Passage du Désir. Et Emmanuel, le vendeur, m'explique qu'il y a trois façons, selon lui, de stimuler la prostate. Donc, par rotation, avec ce jouet qu'on entend, par petits à-coups, ou alors par massage, avec le doigt. Et là, il me fait le geste, vous savez, comme quand on appelle quelqu'un, comme ça, en recourbant l'index. Un geste que Charlotte, qui est aussi vendeuse dans la boutique, connaît également.
Exactement le geste pour chercher le plongée chez la femme.
Voilà. C'est le même.
C'est le même.
Ah bon?
Comme quoi, on se ressemble. Moi, je compare vraiment le point P au point G. À partir du moment où on a trouvé son point G, pourquoi ce serait difficile de ne pas trouver le point P de son partenaire?
La prostate, c'est un peu le côté féminin de l'homme, quoi, surtout, quoi, puisque c'est un orgasme interne et non un orgasme externe.
Voilà. Ah, mais on peut avoir un orgasme en titillant la prostate?
Oui, tout à fait, oui. Un orgasme interne, c'est-à-dire ça se rapproche plus du côté féminin puisque l'homme a plus l'habitude d'éjecter quelque chose que d'avoir un orgasme interne, quelque chose d'interne. Et donc il faut essayer de leur faire comprendre progressivement qu'il faut essayer d'enlever ce tabou, c'est surtout dans la tête, c'est un tabou. Et si on commence à leur toucher la prostate ou l'anus, tout, ils vont faire un amalgame, ils vont dire « bah non, je ne suis pas homosexuel ». Je dirais que 25% des hétéros connaissent la stimulation de prostate, quoi, en gros.
Ouais. Ça s'ouvre de plus en plus quand même. Un homme...
Ça s'ouvre de plus en plus, en fait.
Non, ça va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'hétéros qui vont chercher à stimuler leur prostate. Je trouve qu'on a de plus en plus de clientèle hétéros qui, quand même, sont curieux. Pour le coup, on a beaucoup d'hommes qui sont curieux, qui, il y a quelques semaines, ne voulaient pas. Leurs femmes ont fait quelque chose qui a fait un petit déclic. Et finalement, ah, c'est chouette, pourquoi pas.
Alors, ce que je remarque quand même dans ce magasin, c'est que l'offre pour les femmes est bien plus étendue que l'offre pour les hommes. Il y a environ une trentaine de sextoys pour femmes quand il n'y en a que 5 pour hommes. Et donc, franchement, entre ces 5 modèles pour hommes, donc, j'hésite et c'est très embarrassant. Et alors, si je devais vous demander conseil pour un non-initié, je prends lequel?
Vibrant ou non-vibrant?
Alors là, sincèrement, je sais pas.
Moi, je conseille le Bob de chez Lelo. Il fait pas de bruit, comme il est non vibrant, et qui permet de bien chercher dans les va-et-vient, faire des petits à-coups au niveau de la prostate.
Et donc, je vais vous en prendre un alors.
Bleu ou rouge?
Bleu, ce sera bien.
C'est le Bob. Il est sympa en plus, Bob.
Il s'appelle Bob.
Ouais, il s'appelle Bob.
Ok, ok.
Ah, ça fait 35 euros s'il vous plaît, monsieur.
Ah, quand même?
Oui, mais le plaisir n'a pas de prix. Vous gardez bien le ticket de caisse, il est garanti un an le jouet. Et je vous laisse aussi, si vous voulez organiser une soirée chez vous, nous avons des ambassadrices qui peuvent venir chez vous. Donc ça, c'est très intéressant aussi.
Voilà, pour la petite soirée avec les ambassadrices, j'ai calé ça chez vous, Guillaume, vendredi prochain. Je tenais à vous le dire, rendez-vous
Thomas,
vendredi
ma mère
prochain.
Écoute, quand même. Mais malgré tout, il y a un mystère dans ce reportage sur le plaisir prostatique. Docteur Mignoux, comment explique-t-on le plaisir prostatique? Pourquoi cette glande procure-t-elle du plaisir?
Alors, effectivement, on dit de façon un petit peu généraliste que c'est l'équivalent du clitoris chez la femme, mais il y a un plaisir à la stimulation prostatique chez l'homme, sans qu'on sache vraiment par quelle voie nerveuse ça passe. Moi, je peux vous assurer que quand je fais un toucher rectal à un patient, ça ne lui procure pas de plaisir. Donc, il doit y avoir toute une psychologie autour aussi qui joue.
Thomas Chobineau va vous apprendre.
le toucher Eiffel. Vaginal par les gynécologues ne procure pas beaucoup de plaisir non plus. Donc, on est dans un autre cadre. Mais en tout cas, c'est un changement de concept hein, du désir masculin. C'est très, très important. C'est-à-dire, encore une fois, les hommes se cantonnent au plaisir de l'éjaculation. C'est-à-dire, à un plaisir qui les met uniquement dans l'activité et qui les prive de toute une partie qui est autour de la réceptivité. Alors, ce n'est pas forcément la réceptivité prostatique, mais c'est aussi recevoir l'autre dans un mouvement un petit peu plus féminin que celui qui est traditionnel. Vous savez, il y a une tradition en Inde qui pourtant n'est pas un pays, on pourrait dire, très orienté sur l'égalité des sexes, qui est le tantrisme où on apprend aux hommes depuis qu'ils sont tout petits, les plaisirs de la réceptivité, les plaisirs du périnée, les plaisirs de retarder l'éjaculation, les plaisirs de retarder la pénétration pour recevoir l'autre en soi. Il y a un précepte tantrique qui dit c'est comme si chaque pore de la peau devenait un vagin chez l'homme. C'est quand même très très fort hein, sur le plan de la représentation. Et que ces massages de la prostate ou ces plaisirs de la prostate, ils sont très très connus dans ces traditions-là. Et pourtant, encore une fois, on ne peut pas les targuer d'être autour de la féminisation des hommes. Au contraire, les hommes sont plutôt des machos très virils.
Ça ouvre des perspectives formidables. J'aurais dû ajouter un chapitre à mon roman, la placer sur les perspectives, effectivement, de varier les plaisirs en recevant l'autre plutôt qu'en donnant à l'autre.
C'est ce que cherche votre héros à un moment du livre.
À un certain moment,
il se dit j'ai envie de me mettre dans cet état d'esprit. Oui. Et c'est très très beau l'échange sexuel qu'il a à ce moment-là avec sa partenaire.
Comprend-on, docteur Pignot, à quoi sert la prostate en dehors donc du fait de recevoir du plaisir ou de procurer du plaisir à un homme? À quoi ça sert?
Alors, la prostate en soi ne sert pas à grand-chose. Je crois que c'est Clémenceau qui disait, il y a deux organes inutiles, la présidence de la République et la prostate. Alors, la prostate, elle sécrète effectivement des enzymes, elle sécrète plusieurs produits qui vont faire partie du liquide séminal qui est lui-même constitué par les vésicules séminales en arrière de la prostate et qui contient les spermatozoïdes, mais qui, eux, sont produits au niveau des testicules. Alors, donc, la prostate en soi n'a pas un rôle très important. Ce qui est important, c'est la localisation de la prostate au sein du périnée, puisqu'elle est située juste en dessous de la vessie, qu'elle est autour du canal de l'urètre qu'elle peut comprimer et donc gêner la miction chez certains patients lorsqu'elle est un petit peu hypertrophique, c'est-à-dire un petit peu grosse, et les bandelettes vasculonerveuses qui sont ces fameux nerfs qui passent autour de la prostate qui, eux, par contre, sont impliqués dans l'érection.
Quand on l'enlève, on se rend compte de son utilité. Il faut l'avoir perdue pour savoir à quoi elle servait.
Nous avons Michel au téléphone. Bonjour Michel.
Bonjour.
Nous vous écoutons Michel.
La question que je voulais poser, c'est on vient de me diagnostiquer un cancer de la prostate et je voudrais savoir pourquoi je n'ai affaire qu'à des urologues et jamais à de cancérologues. Parce que ça me semble un peu étrange. Voilà.
Merci pour votre question, Michel. Docteur Pignot.
Alors, effectivement, souvent, le diagnostic est fait par les médecins urologues. La décision de traitement est toujours prise de façon collégiale, c'est-à-dire qu'on discute des dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire, réunion au cours de laquelle sont présents des urologues, des radiothérapeutes et des oncologues. Et en fonction, le patient va être adressé à tel ou tel spécialiste selon les différentes options thérapeutiques qui sont proposées. Et nous, souvent, ce qu'on propose, c'est des consultations groupées, c'est-à-dire que le patient voit au cours d'une même journée le radiothérapeute, le chirurgien, si besoin l'oncologue, mais l'oncologue intervient plutôt à un stade plus avancé de la maladie.
Beaucoup d'auditeurs nous demandent quand est-ce qu'il faut aller se faire diagnostiquer ou quels sont les signes qui doivent alerter le patient. Comment savoir s'il faut aller consulter, docteur?
Alors malheureusement, pour le cancer de la prostate, il n'y a pas de symptômes avant le dépistage.
Quand elle grossit, c'est quand même un petit symptôme.
Alors, l'augmentation de taille de la prostate est plutôt en rapport avec l'hypertrophie. Et ça, c'est une pathologie bénigne de la prostate. Effectivement, c'est un symptôme qui doit amener à consulter. Mais il faut vraiment faire la différence entre l'adénome de prostate, ou hypertrophie bénigne, et le cancer, qui lui ne va donner des symptômes qu'à un stade très évolué lorsqu'il va commencer à comprimer l'urètre.
Des questions sur l'alimentation. Y a-t-il un lien? Est-ce qu'il faut manger du curcuma, nous dit-on? Est-ce qu'il faut boire du cranberry? Donc, des baies qui sont bien souvent trouvables en magasin sous forme de jus de cranberry.
Alors là encore, aucune preuve scientifique pour la prostate. Le cranberry, on sait que ça diminue plutôt la fréquence des infections urinaires, donc ça a un bénéfice en termes d'infections urinaires, mais pas sur le cancer de la prostate. Et pour ce qui est des aliments et des oligo-éléments, il y a plusieurs études qui ont été menées, qui ont été négatives et parfois même qui ont montré, et c'est le cas pour le zinc, l'inverse de ce qu'on voulait prouver, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on favorisait les cancers de la prostate.
Il faut avoir une bonne hygiène de vie, c'est le plus important.
Tara Ben-Jelloun, après avoir écrit l'ablation, ce récit où un personnage fait face à un cancer de la prostate, le personnage va bien, il revit normalement.
Très bien, il a repris son activité. Alors, je ne connais pas son activité sexuelle, mais enfin bon, il a l'air d'être heureux.
C'est donc effectivement l'essentiel. Serge Eiffèze, il peut y avoir un suivi psychologique et un bénéfice dans ce suivi psychologique, puisque beaucoup d'auditeurs nous disent que leur cancer de la prostate a marqué la fin donc de leur capacité érectile.
Oui, mais il y a beaucoup d'hommes sont détruits psychiquement par tous ces par cette impuissance qui peut être totale ou qui peut être partielle, mais on sait bien à quel point l'angoisse est quelque chose qui majore l'impuissance et que c'est un véritable cercle vicieux entre l'angoisse et les capacités du corps et les capacités érectiles.
Il y a beaucoup d'amour.
Plus les hommes sont anxieux, plus ils ont de l'appréhension, plus ça va être compliqué. Donc justement, vous avez tout à fait raison, travailler pas seulement avec le patient mais aussi avec sa compagne, sa conjointe, lorsqu'il en a une, travailler ensemble leur sexualité, c'est de bien, bien, bien meilleur pronostic. C'est-à-dire qu'ils prennent les choses en main ensemble et que l'homme ne se sente pas honteux et reclus avec ses problèmes.
C'est essentiel, quand il y a des relations. Donc, c'est des relations d'amour fort entre deux personnes. Ça aide énormément tout l'aspect. Enfin, ça élimine l'aspect d'angoisse psychologique et ça aide même physiologiquement à ce que les choses reviennent. Pas comme avant, mais au moins d'une manière satisfaisante.
Peut-être que le fait d'écrire aussi aide à avoir du recul par rapport à la maladie. En tout cas, ça donne un très beau livre. L'ablation, votre récit, Tara Ben-Jelloun, publié aux éditions Gallimard. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On écoute Mokayesh, Jeu de la vie, parce qu'il y a de la vie et donc il y a de l'espoir.
Oh, jeu de la vie. Épanoui, c'est du tirage au sort. Ça te dirait qu'on taille dans la nuit, façon chasse au trésor. Je nous pousserais des ailes, on prendrait mon fils qui dort. Je te promets pas le Ritz, mais du pastel plein le décor. Presque mort. À Shanghai ou à Paris, on s'occupe, on compte les scores. Viens qu'on trouve une rade, direction sud ou nord. Où les mouettes bavardent, voiliers sur le port. Thank you. Et si ça tourne pas aussi rond que j'y crois, que mes folies ont toujours tort, je comprendrai tout ça, je comprendrai tout ça, tes désirs, tes choix, ou je comprendrai pas. Mais ça ira, ça ira.
Service public sur France Inter, voici le mot du psy.
Voilà, donc inconscient et subconscient, c'est une question de souplesse. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients, maintenant on réfléchit bien sûr, et trois conscients et subconscients, hein, tout dans les genoux.
Serge Hefez, le ministre de la Santé Marisol Touraine, a dévoilé le 25 septembre son plan national de réduction du tabagisme dans le cadre de la lutte contre le cancer. Serge, vous avez étudié attentivement ce plan. Que vous inspire-t-il ?
Eh oui, une autre lutte contre un autre cancer, mais ce plan me laisse pour le moins sceptique, Guillaume. C'est comme s'il méconnaissait la question des addictions et les méthodes pleines de bon sens qui ont pourtant largement fait leur preuve. Ces méthodes ne consistent pas à viser uniquement l'abstinence et l'éradication des consommations, mais aussi à réduire les risques pour ceux qui continuent de consommer. Souvenons-nous des années 1980 et des terribles ravages que l'épidémie de sida avait provoqués chez les usagers injecteurs d'héroïne. Ils se contaminaient par les échanges de seringues et ils ont été des milliers à mourir de la maladie. Or, la seule alternative qui leur était proposée jusqu'alors était tout bonnement d'arrêter leur consommation de drogue. Il a fallu que certains professionnels se démènent pour faire admettre la philosophie de la réduction des risques, mettre des seringues à disposition pour éviter le partage, distribuer la méthadone, un substitut de l'héroïne, qui se consomme en flacon buvable pour éviter les injections. Moins glorieux que l'arrêt de l'addiction, certes, mais beaucoup plus efficace. Des milliers de contaminations ont ainsi pu être évitées. Mais pour ce faire, il a fallu valoriser la méthadone par rapport à l'héroïne auprès des usagers.
Bon, et quel rapport voyez-vous, Serge, entre les fumeurs de tabac et ceux qui s'injectaient de l'héroïne ?
Mais il y a un rapport, Guillaume, parce que contrairement aux idées reçues, il est aussi difficile de se défaire de l'addiction au tabac qu'à celle de bien des drogues illicites. Or, nous avons à notre disposition depuis quelque temps ce qui pourrait être la méthadone des accros à la cigarette, à savoir la cigarette électronique. Elle réduit les risques sanitaires car elle ne contient ni les résines ni les goudrons qui provoquent les cancers respiratoires. Et elle a fait ses preuves. Pour la première fois, les ventes de tabac ont reculé en 2013 de plus de 8% et 500 000 fumeurs se sont sevrés grâce à son usage. Eh bien, le croirez-vous, Guillaume, au lieu d'être valorisée, la cigarette électronique continue d'être diabolisée dans ce nouveau plan gouvernemental. Assimilation à la consommation de tabac, interdiction dans de nombreux lieu public, danger pour les jeunes, avec un risque potentiel qu'elle devienne une porte d'entrée vers le tabagisme, alors que les études montrent que le nombre de jeunes n'ayant jamais fumé et qui adoptent la cigarette électronique est infime. Un dispositif qui fait reculer la consommation de tabac ne devrait pas devenir la cible d'une loi anti-tabac.
De fait, il a surtout été retenu que ce plan anti-tabac, Serge, allait s'accompagner d'une politique de neutralisation des paquets de cigarettes.
En effet, Guillaume, mais soyons sérieux, qui imaginerait traiter le problème de l'alcoolisme en faisant disparaître les étiquettes des bouteilles. L'Australie est ici un formidable terrain d'expérience puisque la neutralité du paquet est en vigueur depuis 2012. Or, les études des chercheurs australiens montrent que l'introduction de la neutralité ne modifie pas le comportement des fumeurs quant à leurs habitudes d'achat et de consommation. Son efficacité semble du même ordre que celle des images et des avertissements imposés sur les paquets et tenus pour faire peur aux fumeurs. Une fois installée, l'addiction se joue de ces obstacles qui, chez les plus jeunes, peuvent paradoxalement inciter à la prise de risque. Non, décidément, justement la meilleure façon de diaboliser le tabac et justement de valoriser la cigarette électronique. Or, l'assimilation permanente de la e-cigarette avec sa fausse jumelle devient une véritable campagne de désinformation, alors même que la vie de millions de gens est en jeu et à leur insu.
Merci beaucoup Serge Efez. À la semaine prochaine, moi j'essaye de reprendre le tabac. Bonjour Nagui.
Comment ça, vous reprenez le tabac?
Mais j'essaye, j'y arrive pas. C'est difficile de reprendre, vous savez. Vous,
avec les cigarettes. Non, je fume pas. Non. Et les cigarettes électroniques qui explosent même. Il y en a qui explosent en plein visage.
Il y en a une, Nagui.
Bah ouais, mais ça fait peur.
Mais non.
Ça fait peur, ça fait peur. Maintenant, quand j'en vois une, je m'écarte. On sait jamais si ça explose.
Mais non, n'ayez pas peur, Nagui.
Je suis fragile comme garçon, vous savez. On va exploser aujourd'hui de joie avec Lilian Thuram, le champion du monde 98, le grand joueur de foot qui sera notre invité, notamment pour débriefer un tout petit peu et parler du PSG Barça d'hier soir. Et en live, nous avons un groupe nantais qui s'appelle Elephants. Vous savez tout, Guillaume Herner.
Ah, c'est bien, parce que comme ça, vous m'expliquerez quelle est la différence entre le football et le rugby. J'ai jamais très très bien compris comment on réussissait à distinguer
Faut
les deux.
Faut qu'on parle.
J'irai voir votre invité. Je suis sûr qu'il prendra un peu de temps pour m'expliquer ça.
Ah ben, vous allez voir. Puis il est très doué de ses mains aussi. Vous allez voir, vous allez apprécier.
Bon, vous nous écouterez. Alors écoutez, on essaiera de voir avec lui comment on fait
on
pour mieux jouer au football. On vous écoute tout à l'heure, Nagui.
À tout à l'heure.